Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous et bonne année bissextile. Cette année, on va vieillir un petit peu moins vite. Autre bonne nouvelle, Check-up Santé est toujours là pour vous servir, pour vous présenter les invités qui font la santé d'aujourd'hui et surtout de demain. Si vous avez des choses à dire, à nous faire découvrir, à nous apprendre, n'hésitez pas à nous contacter. Notre plateau vous est ouvert. Et pour commencer l'année, après des vacances probablement hyper caloriques, on ne pouvait pas ne pas inviter l'homme aux 250 000 abonnés sur YouTube, le professeur Boris Ancel, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat. Notre deuxième invité est Dominique Godet, qui est directeur général de Reliance, groupe mutualiste européen en management des risques spécialiste des acteurs du soin. Enfin, notre troisième invité est Stéphane Bazoche, responsable de la santé et des sciences de la vie chez Deloitte, acteur mondial de référence en audit et assurance, et qui va nous parler de l'inégalité d'accès aux médicaments. Check-up Santé 2024, c'est parti. Boris Ancel, bonjour.
Bonjour.
Et bonne année.
Merci, bonne année santé. À vous, bonne année à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent.
Ouais, pas trop bonne santé, il ne faut pas qu'on fasse faillite quand même, non?
Bah, il faut ouais. quand même un 2024 minimum. Et 2025.
Alors, vous êtes chercheur, vous êtes professeur en diabétologie et nutrition à l'hôpital Bichat, dans le service de cardio-chirurgie cardiaque de mon ami Patrick Nataf. C'est étonnant quand même pour faire de la diabéto, de la nutrition dans un service de chirurgie cardiaque.
Vous savez, il faut innover.
Ouais.
La nutrition de demain, ce n'est pas la nutrition d'hier, ni d'aujourd'hui. Et un des enjeux majeurs de la nutrition, c'est de prévenir les maladies chroniques et notamment la récidive de maladies chroniques. Et rien de mieux, on est la seule unité dans le monde à proposer ça, c'est-à-dire la prévention secondaire après chirurgie cardiaque et même après les réadaptations. Vous savez, les patients après chirurgie vont en réadaptation. Mais après, souvent, ils sont un peu dans la nature. Et ça, c'est une innovation.
Alors, vous n'allez pas me contredire si je vous dis que le surpoids, c'est en pleine croissance dans notre pays et ailleurs, d'ailleurs.
Oui, c'est un adulte sur deux, pratiquement, selon les dernières évaluations en France,
surpoids
et obésité. C'est 17% de personnes en situation d'obésité, le reste en situation de surpoids. Alors, le problème, c'est pas d'avoir un poids élevé en soi.
Bien sûr, mais tout ça, c'est un coût quand même pour notre société.
Un coût. On évalue en France à peu près 11 milliards d'euros par an, le coût direct de l'excès de poids, en raison des, non pas des problèmes esthétiques, mais des pathologies qui sont associées à cela.
Alors, on sait que le poids de la nutrition, c'est hyper important pour notre santé, et en particulier pour le cancer.
Oui, alors, on a des évaluations pour évaluer la part attribuable à la nutrition dans les maladies chroniques, et pour le cancer, on évalue qu'à peu près un tiers des cancers sont attribuables à la nutrition. Ce qui voudrait dire que si on améliore nos habitudes nutritionnelles, on pourrait réduire potentiellement le risque de cancer de 30%. Et on a des choses à peu près équivalentes pour les maladies cardiovasculaires. Et pour le diabète, n'en parlons pas.
Alors, donc, vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle PUMS.
PUMS, vous savez ce que ça veut dire ?
PUMS, ça veut dire pour une pratique...
pour une meilleure santé.
Pour une meilleure santé, bien sûr, PUMS. Qui veut dire meilleure santé, bien sûr. Qui cartonne. Combien d'abonnés ?
250 000.
Extraordinaire.
Alors, c'est vrai que c'est une chaîne tout à fait innovante. On est la seule chaîne, j'ai regardé, la seule chaîne dans le monde à proposer une information fiable amenée par des...
Oui, c'est ça, puisque vous avez une...
Un collège
quantité d'experts.
Un collège d'experts hospitalo-universitaires.
Ouais.
On vient pas à PUMS pour gagner sa vie. On vient pas à PUMS pour vendre un livre ou vendre une idée. On vient à PUMS quand on est expert pour partager de la connaissance santé, connaissance médicale. Et notre pari, il est ça.
Donc les infos sont fiables, scientifiques et sources.
Fiables, scientifiques. Il n'y a pas de sponsor d'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Le seul soutien, c'est finalement ceux qui regardent, ceux qui sont fidèles. Et on a un pari à PUMS. Ce pari, c'est d'aider les gens à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.
Donc votre cible, c'est le grand public ?
La cible, c'est tout le monde. En fait, à l'origine, on s'est intéressé pas mal aux professionnels de santé, divers et variés, mais on s'est rendu compte que le grand public était à l'affût d'informations fiables. Et donc, c'est aujourd'hui accessible à tout public. Et même si on ne connaît rien à la santé, à la médecine, on va apprendre des choses à PUMS et on va recevoir des conseils pratiques fiables pour améliorer notre quotidien.
J'imagine que c'est vu en douce par les soignants aussi, non ?
En fait, on a à peu près 25% de soignants qui sont des médecins, qui sont des infirmières, infirmiers, enfin tout type de soignants. Et je vais vous dire, moi, j'apprends énormément quand je prépare une émission. C'est un des endroits où je me mets à jour finalement, et je sais que les experts qui viennent.
Quand vous préparez vos
topos, ouais, parce qu'on vous prépare.
Ouais. Alors, quel est finalement le business model, le business économique de votre chaîne ?
Alors, grosso modo, on a à peu près 20% qui sont des ressources internes à l'université. À l'université Paris-Cité, on a des moyens techniques.
Quelques subventions, ouais, 20%.
Alors, 20% qui sont les moyens du studio vidéo de l'université.
Bien sûr, hein,
avec Samia Seri notamment. Ensuite, on a une grande part qui vient des crédits, des diplômes universitaires, puisque je coordonne un DU de nutrition, un DU de santé connectée et un DU de métaverse en santé.
On va le dire après, justement.
Voilà, c'est de la formation continue. Et
donc, vous avez aussi des partenaires.
Les crédits sont réinjectés. Ouais. Et puis, troisièmement, on a maintenant des partenaires, comme je le disais, pas d'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire, mais des mutuelles, des assureurs.
Oui, l'industrie n'est pas le diable, mais c'est vrai que c'est pas sa place.
Je ne dis jamais que c'est le diable, simplement, aujourd'hui, pour avoir 100% de crédibilité dans un média comme celui-là, on est obligé de faire un choix. Voilà. Et ce choix, donc, il a été fait pour.
Donc vos partenaires sont divers et variés.
Mutuelles, assureurs, éventuellement banques, qui interviennent sous forme de mécénat.
On a compris, c'est un appel alors.
Bah,
éventuellement.
On fait toujours un appel.
Alors donc vous coordonnez trois diplômes, santé, nutrition et aussi métaverse. C'est quoi le lien entre métaverse et nutrition ?
Alors, le lien entre métaverse et santé, déjà, c'est qu'aujourd'hui, avec les technologies immersives, on peut enseigner notamment l'anatomie, mais pas que, on peut aider à soigner. Et en nutrition, on a commence à avoir des champs d'application. Le premier, c'est en psychologie, en psychiatrie, notamment dans le domaine des troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a un lien avec la nutrition, vous savez. Souvent, on perd un petit peu l'image corporelle peut être détériorée dans certains cas. Et les technologies de réalité virtuelle peuvent participer à cela. Et puis, deuxièmement,
On peut entrer dans un supermarché virtuel.
Et voilà, ça, c'est la deuxième chose. C'est de créer un supermarché virtuel. C'est assez incroyable ce qui se passe quand on est face à... au rayon, on a des comportements qu'on va étudier et on peut apprendre.
C'est génial, c'est qu'on peut justement étudier le comportement alimentaire.
Exactement,
des,
et aider à des gens, agir sur ce comportement.
Donc vous avez justement fait une première étude nationale dans ce sens, un peu, non de.
Ouais, alors on est dans les prémices de l'utilisation de la santé connectée, pas encore le métaverse, mais là c'est un programme d'e-coaching nutritionnel qui a été créé avec la collaboration de la société Iriad. Et le but, là, c'est la première étude nationale financée par la recherche publique, le ministère de la Santé, qui va évaluer l'intérêt d'un coaching nutritionnel en ligne chez des personnes qui ont en situation d'obésité ou de surpoids à risque cardio-métabolique. Et là, ça va durer un an. C'est-à-dire pendant un an, il y a des personnes qui vont avoir soit le coaching en ligne, soit les soins
Votre
usuels,
coaching.
Notre coaching,
d'accord,
effectivement, qui s'appelle OB Coach.
D'accord.
Soit les soins usuels, et on va évaluer si ce coaching nutritionnel en ligne est utile pour agir sur le poids et sur les risques, notamment cardio-métaboliques. Et ce qui est important,
ça n'a pas été étudié pour les boîtes de coaching alimentaire, mais privées, quoi.
Il y a beaucoup d'offres qui sont proposées, il n'y a pas d'études cliniques, et en particulier en France, sérieuses, qui a fait ce type d'évaluation sur un an en particulier, sur une longue durée. Il ne s'agit pas de faire une enquête qualité, il s'agit vraiment de faire une étude scientifique, et c'est dans toute la France, parce que tout se fera en distanciel. Ce qu'on veut, c'est vraiment voir si dans les déserts médicaux on peut arriver à proposer quelque chose pour toutes ces personnes qui n'ont pas accès finalement à des soins de proximité spécialisés.
Bon, en tout cas, merci Boris Ancel. Évidemment, je conseille à ceux qui nous regardent et qui nous entendent d'aller sur PUMS.
C'est un conseil ou une obligation ?
C'est un ordre, c'est un ordre. C'est un ordre. Merci beaucoup. Voilà, on va accueillir à présent Dominique Godet, directeur général du groupe Reliance.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Dominique Godet, bonjour.
Bonjour.
Et bonne année, bonne santé.
Merci, bonne année à toutes et à tous.
Alors, vous êtes dans le groupe Reliance depuis une petite quinzaine d'années, depuis 14 ans, et vous en êtes d'ailleurs le directeur général. Reliance, qui s'appelait avant CHAM. Hein,
oui, c'était la CHAM.
Il y a quelques années. C'est un groupe mutualiste qui a pratiquement un siècle.
Oui, c'est un groupe mutualiste européen aujourd'hui, et aussi une entreprise à mission, c'est important pour nous, qui est dédiée aux acteurs de la santé, aux acteurs territoriaux.
On va y revenir. Vous êtes donc un groupe européen, donc vous êtes dans quelques pays, en Europe, en
France, bien sûr,
oui.
Espagne, Italie, Allemagne, et puis des partenariats en Belgique, au Luxembourg, et on regarde d'autres pays en Europe.
D'accord.
Oui,
ah oui. Donc c'est un groupe qui croît en permanence.
Depuis un peu plus de 10 ans, nous avons initié une stratégie de développement, de diversification, de partenariat, et aujourd'hui, Reliance est le leader de l'assurance des risques médicaux en Europe.
Et ça fait combien de collaborateurs ?
1100 collaborateurs et un peu plus d'un milliard d'euros de primes encaissées.
Et vous, le siège est à Lyon, c'est ça ?
À Lyon, oui. La CHAM est née à Lyon et Reliance est toujours à Lyon.
Alors, vous vous adressez évidemment aux acteurs du soin et des territoires. On va commencer peut-être par le soin.
Oui.
De quelle façon, justement, vous proposez vos services aux professionnels de santé ?
Oui. Notre mission, c'est de sécuriser l'activité des acteurs du soin. Et donc, à partir de l'assurance des risques médicaux, nous sommes remontés du sinistre vers le risque et nous nous attachons à créer, à développer, avec des partenaires, avec des start-up, des solutions de pilotage, de prévention et évidemment d'assurance des risques médicaux et des risques cyber, des risques technologiques, des établissements et des professionnels du plateau technique lourd pour l'essentiel.
Et tout ça, ça va de... En particulier, vous pratiquez évidemment vous prodiguez vos services aux médecins en particulier, non ?
Oui, évidemment, ouais. L'activité médicale, elle est produite par les médecins. Ouais. Donc on est le...
Et ça va de l'internat jusqu'à l'installation, au remplacement, l'installation ?
On a une offre à destination des professionnels de santé, effectivement, de l'internat. Et on a une offre d'ailleurs dédiée aux internes aujourd'hui, en France, en Espagne, jusqu'à évidemment le plein exercice. L'histoire de Reliance, c'est quand même plutôt les établissements que les professionnels de santé, mais on est très actif auprès des sociétés savantes, justement, pour bien comprendre les risques attachés à chacune des spécialités.
Donc, en gros, vous prévenez et vous défendez aussi les professionnels de santé de ces risques. Quels sont les risques ? Donnez-nous des exemples de risques professionnels.
Aujourd'hui, par exemple, nous avons des solutions pour la chirurgie parce que 50% de nos sinistres, de nos réclamations, viennent de la chirurgie.
Soit un peu plus de 60... spécialités qui sont plus à risque que d'autres.
Oui, l'orthopédie, le bariatrique, par exemple, la neuro, la neurochirurgie également, avec des sinistres d'intensité. Un des plus... Des risques les plus coûteux, si je puis dire, c'est l'obstétrique. Très très peu de sinistres, mais des sinistres de très grande intensité quand un enfant naît à la suite d'un accident avec une invalidité importante.
Est-ce que ça crée justement des pénuries de professionnels de santé, ces professions à risque ? Est-ce que après l'internat, le choix d'internat, les étudiants hésitent à se diriger vers une spécialité trop risquée ?
Je ne sais pas si le risque est vraiment générateur d'orientation professionnelle. Enfin, moi qui connais quand même beaucoup de médecins, c'est avant tout une passion, un art, vous le savez. Et nous sommes là pour sécuriser leur activité, donc pour leur permettre de se concentrer sur leur activité, sur leur mission d'intérêt général au service du patient. Et on prend en charge la prévention et la sécurisation, l'indemnisation quand il y a un accident médical.
Et vous disiez, parmi les risques nouveaux, il y a les problèmes de cybersécurité ?
Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, les systèmes de santé en Europe et en France ou ailleurs sont vraiment au cœur des attaques cyber. Il y a quelques années, les hackers laissaient les établissements de santé de côté. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et on le voit dans l'actualité. En France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, des attaques d'établissements. Et donc, on s'est attaché à créer, là aussi, avec des start-up, avec des partenaires, une solution complète qui permette de sécuriser en totalité un établissement de santé.
Parce que ça vous coûte plus cher, évidemment, d'assurer des des médecins ou des entités à risque important de...
Oui, et l'assurance n'est pas la bonne réponse pour le cyber. C'est vraiment le pilotage du risque, sa mesure, son suivi,
sa prévention, ouais.
Et sa prévention. Voilà. Et donc on a tout un catalogue de solutions qui permettent de prévenir les risques.
Donc vous agissez sur les territoires,
hein. Également.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Depuis toujours, si je puis dire, on a la conviction chez Reliance que santé et territoire sont intimement liés. Alors, on le sait, aujourd'hui, avec notre activité européenne, en Espagne, en Italie, en Allemagne, les systèmes sont décentralisés et pilotés localement. En France, on est encore dans un système très décentralisé, mais on voit bien l'implication de plus en plus importante des acteurs territoriaux dans l'offre de soins. Aujourd'hui, la première interpellation d'un maire d'une commune, c'est l'absence de médecins, c'est les déserts médicaux, les retards de prise de rendez-vous. Donc l'acteur politique local est de plus en plus impliqué dans l'offre de soins.
Alors, vous êtes une entreprise depuis 2012, une entreprise à mission.
Oui,
donc avec des objectifs,
2021, une entreprise à mission. Oui.
Avec des objectifs sociétaux, environnementaux.
Tout à fait, oui, oui. Ouais. Alors, tout d'abord.
Il faut répondre à certains critères, c'est ça, pour être.
Mais c'est défini dans la loi Pacte, oui. Et puis, nous avons un comité de mission, un organisme tiers indépendant. Nous sommes audités sur l'avancement sur nos objectifs sociétaux, environnementaux. Oui, tout ça est très, très exigeant, très réglementé. Mais moi, je crois que toute entreprise est un acteur de la société, un acteur politique, un acteur sociétal, et on doit s'engager dans cette direction.
Alors, vous dites que 2024 sera une année riche en innovation.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui nous caractérise depuis un certain nombre d'années. Nous avons...
Donc, vous avez une certaine pression. Vous l'avez dit, il faut le faire.
Oui, mais on le fait, on le fait tous les jours. On a tout un environnement interne dédié à l'innovation. On est un assureur, on a des capacités d'investissement, donc on investit dans des start-up israéliennes, allemandes, espagnoles, autour de l'intelligence artificielle, de la data, en particulier en matière de santé, pour construire des systèmes prédictifs des risques qui permettent aux professionnels de santé d'anticiper sur les risques, de respecter les protocoles, d'appliquer les meilleures pratiques, de se former, de débriefer après les opérations, tout ça pour améliorer le contexte de gestion des risques et la sécurité du patient.
Et là, l'intelligence artificielle donc, est un apport important ces dernières années.
Oui, tout à fait. On le voit bien. Par exemple, nous avons un système dédié aux unités de soins critiques, réa, soins intensifs, et c'est vraiment un algorithme qui permet une analyse prédictive des risques de décompensation cardiaque, respiratoire des patients en réa, et ça permet au personnel médical d'anticiper un dommage.
Et vous collaborez beaucoup avec les sociétés savantes, vous dites.
Oui, on a beaucoup de partenariats avec les sociétés savantes. C'est là que ça se passe, hein, pour bien connaître l'activité de médicale de nos clients, les risques. On ne veut pas être juste un assureur qui intervient après. On veut vraiment être au cœur de l'activité, au cabinet, dans les établissements. Et donc, c'est avec les médecins qu'il faut travailler et leurs représentants dans les sociétés savantes.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Godet, directeur général de Reliance. J'espère que vous reviendrez pour nous en parler à nouveau.
Avec plaisir.
On va accueillir à présent Stéphane Bazoche, qui dirige le département Sciences de la vie et santé chez Deloitte.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Stéphane Bazoche, bonjour.
Bonjour.
Et bonne année.
Bonne année, bonne santé.
Vous êtes associé donc chez Deloitte, vous dirigez le département Sciences de la vie et santé pour la France et l'Europe centrale. De Reliance est un groupe européen, Deloitte est un groupe mondial.
C'est un groupe mondial, un groupe de 450 000 personnes.
Dans
les services professionnels, un leader des services professionnels.
Donc il est réparti dans de nombreux pays
Partout dans le monde.
Avec une histoire, c'est incroyable quand même.
Oui, c'est un groupe qui a une superbe histoire, 175 ans de
175 ans, ouais.
Et des activités.
Qui est à l'origine française ou pas à l'origine ou anglaise, non?
Non, plutôt anglaise, ouais.
Ouais, plutôt anglaise. Alors, donc, dans votre département, à vous, donc, il s'agit d'aider les professionnels de santé, mais avant ça, d'une manière générale, donc, quelles sont les missions d'un groupe comme Deloitte?
Deloitte a plusieurs activités assez diversifiées, mais on est cabinet de conseil et puis on est cabinet d'audit. Hein. Donc, en France, on ne peut pas servir les deux en même temps. Donc, soit on est consultant, soit on est auditeur, mais on a cette double activité sur le territoire français, en Europe et dans le monde.
Alors donc vous êtes dans la partie santé, donc vous concevez et vous fournissez des solutions, c'est ça?
Oui, on conseille, on accompagne nos clients dans leur stratégie, dans leur transformation et sur la partie audit en tant que commissaire aux comptes. D'accord. De certains de nos clients.
Et qui sont, de manière générale, vos clients?
Alors, dans la santé, c'est à la fois des laboratoires pharmaceutiques, c'est aussi des hôpitaux, c'est toutes sortes d'acteurs qui font appel à nos services, effectivement.
D'accord, donc c'est vrai qu'on met l'intelligence artificielle à toutes les sauces, mais est-ce que ça vous aide aussi pour améliorer certaines choses, par exemple pour accompagner le lancement d'un produit ou d'un médicament, non?
Oui, complètement. C'est un sujet qui est prioritaire pour nos clients et donc pour nous. On les accompagne pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans leur process, gagner en efficience, gagner en efficacité, et puis accélérer leur process, effectivement. L'intelligence artificielle, notamment dans la R&D, c'est un sujet critique qui permet à nos clients laboratoires pharmaceutiques d'aller plus vite dans leur développement.
Alors, dans la santé, bien sûr, la santé, ça intéresse la France, mais ça intéresse le reste du monde. Un des soucis en santé, c'est l'accès aux soins, l'accès aux médicaments.
Oui, l'accès à la santé en général, c'est un problème clé de développement durable. Hein. C'est une priorité, c'est un objectif de développement durable des Nations Unies. Et l'accès aux médicaments, c'est un problème très très important pour l'industrie pharmaceutique, mais pour le monde en général. Je vais donner peut-être juste un chiffre. Quand on lance un nouveau médicament, les pays en développement y ont accès, mais on considère que, on estime que seulement 1% des patients qui pourraient bénéficier de ce médicament y ont effectivement accès 5 ans après le lancement du
produit. 1% dans le monde.
1% dans le monde, dans les pays en voie de développement.
Oui, j'ai regardé aussi, j'ai vu que 70% des décès par cancer ont lieu dans les pays pauvres.
Oui, c'est
donc on passe de maladie transmissible à maladie non transmissible.
Exactement. Les pays en voie de développement, souvent, quand on pense à leurs problèmes de santé, on parle de maladies infectieuses. Mm-hmm. Choléra, malaria, tuberculose.
Paludisme,
et c'est vrai, exactement. Ouais. C'est un vrai problème. Mm-hmm. C'est vrai, mais c'est un problème sur lequel il y a eu beaucoup de travail ces dernières années, notamment sur la vaccination, beaucoup de travail d'organisations internationales comme l'OMS, l'UNICEF, etc. Donc il y a encore des choses à faire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce qu'on observe par contre, depuis un certain nombre d'années, c'est une explosion des maladies chroniques, et notamment des maladies non transmissibles.
Oui. Le paradoxe, c'est que, évidemment, vous dites les pays pauvres ont un problème d'accès aux soins et aux médicaments, et on a aussi parfois des pays très très riches, comme les US, où on a aussi une égalité flagrante d'accès aux médicaments.
Oui, c'est vrai, aux États-Unis, c'est le cas également, il y a des vraies inégalités d'accès aux soins. On ne parle pas de la même dimension, effectivement, que des pays en voie de développement, mais il y a des vrais problèmes d'accès aux soins et d'affordabilité,
de capacité de vie, de payer. L'espérance de vie aux US a stagné, voire régressé. Quoi.
Tout à fait.
Et donc, ça, c'est un gros enjeu pour l'industrie pharma, par exemple?
C'est un énorme enjeu pour l'industrie pharma. Alors d'abord, c'est une priorité pour les dirigeants de l'industrie pharmaceutique, de s'assurer que leurs produits soient disponibles au plus grand monde. C'est une priorité des PDG, qui mettent en place un certain nombre d'initiatives, mais ils sont aussi encouragés par certains facteurs. Notamment, leurs investisseurs sont en attente de performances de développement durable. Donc, bien entendu, de performances financières, mais aussi de performances sur des indicateurs non financiers. On parle souvent de réduction des émissions de CO2, mais là où on attend l'industrie pharmaceutique, c'est aussi sur son impact social et sa capacité à rendre les produits plus disponibles auprès du plus grand nombre.
C'est dans ce domaine que vous les aidez, donc que vous les conseillez aussi?
On les accompagne sur cette dimension, effectivement.
Oui, et ils ont pris justement le train, justement, de...
Ils prennent le train, et il se trouve qu'il y a en fait une convergence de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a il y a ce besoin d'accélérer sur le développement durable, sur l'ESG, et puis en même temps, il y a besoin de nouvelles pistes de croissance. Et on parlait des États-Unis, il y a quand même une pression de plus en plus forte, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sur les prix et les budgets alloués aux médicaments. Aux États-Unis, il y a eu l'Inflation Reduction Act, qui a ouvert la porte aux négociations des prix des médicaments, c'est une première aux États-Unis. Donc une croissance peut-être un peu moins forte à l'avenir du marché des médicaments, alors même que dans les pays en voie de développement, à contrario, la croissance du marché est très importante. On parle de 8% par an de croissance du taille de marché du médicament dans ces pays en développement.
Donc il faudrait aussi peut-être conseiller aussi les systèmes de santé dans différents pays. Peut-être que vous pourriez être amené aussi à conseiller donc les pays en Afrique, en Asie, améliorer leur...
Complètement. Nos collègues, effectivement, dans ces pays, les accompagnent sur ces thématiques.
Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Stéphane Bazoche, partenaire chez Deloitte. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et encore une fois, bonne année, bisextile et bonne santé.
BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé.